Premier journal, il est 5h sur Europe 1.
Une petite fille de 8 ans enlevée dans les Vosges par 3 hommes. Sa propre mère est recherchée car soupçonnée d'avoir organisé le kidnapping. Prudence et donc nouveau retard potentiel dans la vaccination. Le laboratoire Johnson & Johnson reporte le déploiement de son produit en Europe après 6 cas de caillots sanguins aux États-Unis. Et puis la saison des festivals approche. Les concerts se feront assis pour le public ou ne se feront pas. Vous allez voir que de nombreux événements s'adaptent pour que la fête soit bien là cet été.
À suivre votre journal des sports donc et puis notre pressing du matin, enfin les doigts dans l'assiette avec nos agriculteurs, nos artisans. Nous serons ce matin chez notre chocolatier du côté de Grenoble.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous l'avez entendu à la radio ou vu à la télé hier soir, l'alerte enlèvement déclenchée pendant quelques heures pour une petite fille, Mia, qui mesure 1m30, les yeux bruns, les cheveux longs et bruns avec une frange. Elle a été kidnappée par 3 hommes dans les Vosges. Johanna Chabas, quels sont les tout derniers éléments sur cet enlèvement ?
Eh bien, la petite fille de 8 ans était chez sa grand-mère maternelle dans le village des Poulières, dans les Vosges, lorsqu'en fin de matinée, vers 11h30, 3 hommes l'ont enlevée. Les 3 kidnappeurs, âgés de 25 à 50 ans, pourraient circuler à bord d'un véhicule Volkswagen transporteur gris. Mia a été placée chez sa grand-mère après une décision du juge des enfants. Sa mère, Lola, n'a pas le droit de la voir seule. Et justement, les gendarmes pensent que la petite Mia pourrait être avec sa maman qui conduirait une autre voiture, une Peugeot 207 noire. Pour l'instant, la piste privilégiée par les enquêteurs est que la mère de Mia pourrait avoir organisé l'enlèvement.
Merci Johanna Chabas.
C'est un nouvel imprévu dans la campagne vaccinale. Le laboratoire Johnson & Johnson a annoncé hier qu'il reportait le déploiement de son vaccin en Europe.
Oui, un peu plus tôt, les autorités sanitaires américaines avaient préconisé de faire une pause dans l'utilisation de ce sérum après avoir reçu, Anne Le Gall, plusieurs signalements portant sur des cas sévères de caillots sanguins.
Oui, ces thromboses cérébrales atypiques avec chute des plaquettes sanguines qui surviennent quelques jours après l'injection intriguent les autorités sanitaires. Aux États-Unis, 6 femmes de moins de 50 ans sont concernées et l'une d'elles en est décédée. Alors statistiquement, ces caillots sanguins sont très rares, moins d'un cas pour 1 million, mais ils font penser à ceux survenus après des injections d'AstraZeneca, un autre vaccin à vecteur viral. Pour Marie-Paul Kieny, présidente du comité vaccin Covid en France, cette suspension du vaccin Janssen est un bon principe de sécurité.
Il faut effectivement comprendre et après ça, en fonction de ce qu'on aura compris, s'assurer que ce vaccin, je l'espère, sera mis en utilisation de la façon la plus sûre possible.
200 000 doses de ce vaccin Johnson & Johnson sont déjà arrivées en France, mais en attendant le résultat de nouvelles expertises, le déploiement du sérum est suspendu partout en Europe, sans plus de précision sur le calendrier pour l'instant.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Un indicateur du redémarrage de l'économie mondiale. Les résultats du groupe LVMH pour le premier trimestre 2021. Le géant du luxe a vendu plus de produits sur janvier, février, mars cette année qu'en 2019.
Une progression de 8%, hein, Emmanuel Duteil. Ça veut dire que le groupe dépasse ses performances d'avant la pandémie.
Oui, et ce qui se vend très bien chez LVMH, ce sont les vêtements et la maroquinerie. Les ventes, hein, sont en progression de près de 40% par rapport à 2019. Des marques comme Vuitton et Christian Dior en profitent pleinement. Après une année 2020 très compliquée, il y a bien sûr un effet rattrapage. Les gens qui le peuvent, hein, veulent se faire plaisir après ces mois plus ou moins à l'arrêt. Alors c'est très vrai en Chine, le pays redémarre très fort depuis des mois, la situation est sur place quasi normale. Les États-Unis qui vaccinent à tour de bras leur population et qui investissent des milliards de dollars pour soutenir leur économie voient aussi un net rebond de la consommation. Quitte à se faire plaisir, on a semble-t-il aussi envie de trinquer. Les ventes de cognac par exemple sont en forte progression, là encore en Chine et aux États-Unis. Signe en revanche que l'on ne voyage toujours pas comme on le voudrait, les activités de duty-free de LVMH reste en berne. En tout cas, ces performances montrent que l'économie peut très vite repartir quand les différents pays rouvrent.
Emmanuel Duteil, les élections régionales sont maintenues au mois de juin, mais très légèrement décalées d'une semaine. Ce sera les 20 et 27 juin. Les députés ont largement voté en faveur de cette stratégie présentée par le Premier ministre hier à l'Assemblée. Un débat que Claudia Bertram a suivi pour Europe 1.
À la tribune, Jean Castex met fin au suspense. Les régionales sont maintenues, mais tout de même légèrement décalées.
Certes, ce n'est qu'une semaine. Une semaine de vaccination en plus, soit au moins 2 millions de personnes vaccinées. Une semaine de préparation en plus, tout compte.
Le Premier ministre détaille un certain nombre de mesures pour garantir la tenue du scrutin et de la campagne. Celle-ci devra être dématérialisée au maximum, prévient-il. Mais cela a des limites, estime le député communiste et candidat en Normandie, Sébastien Jumel.
Une campagne, c'est rencontrer des habitants. C'est aller sur des marchés en responsabilité. Masqués mais pas muselés, nous ne serons jamais des candidats Zoom.
Bien qu'alliés de la majorité, le Modem est le seul groupe où la plupart des députés se sont opposés au maintien des régionales. Leur chef de file, Patrick Mignola, met en garde.
Une campagne zéro Covid, tout en numérique, ce sera un scrutin zéro électeur.
Inquiétude aussi sur l'organisation du vote. Dans l'hémicycle, chaque groupe y va de ses propres propositions. Le député et président des Républicains, Christian Jacob.
Il faudra veiller à la sécurité des assesseurs dans nos bureaux de vote. En les vaccinant.
Et cet après-midi, ce sont les sénateurs qui en débattront.
Il est 5h06 sur Europe 1. Alors que les restaurants et cinémas sont fermés, certains s'affranchissent complètement des règles. Nouvel exemple édifiant.
Oui, ce matin, on ne vous parle pas d'un restaurant clandestin, mais carrément d'un tripot secret qui vient d'être démantelé par la police judiciaire à Paris. Guillaume Biais, 6 organisateurs présumés avaient installé leur structure dans les beaux quartiers.
Oui, ils ont vu grand, trop grand sans doute, ce père de famille, ses deux fils et leurs associés qui géraient jusqu'ici un tripot clandestin en banlieue parisienne. Affaire florissante, à tel point qu'ils ont tout déménagé le mois dernier, direction Paris, la prestigieuse avenue Foch, près de l'Arc de Triomphe. Les suspects ont réussi à louer un appartement de 250 mètres carrés réparti sur 4 étages. À l'intérieur, ils proposaient à leurs habitués des tables de poker, vente de cigarettes, de quoi se restaurer aussi, et avec pour le confort des joueurs lors des longues parties, des serveuses masseuses. Rien que cela. Ce que les gérants ignoraient, c'est qu'à la direction centrale de la police judiciaire, le service des courses et jeux enquêtait sur eux depuis 6 mois déjà. Les policiers ont débarqué en pleine nuit et interrompu les parties en cours. Une amende à venir pour les joueurs et une garde à vue pour les 6 organisateurs présumés, dont l'un était armé. Ils ont tous été mis en examen.
Guillaume Biais, chef du service police-justice d'Europe.
Le ministère de la Culture reçoit de nouveau aujourd'hui les patrons de festivals pour voir si de nouveaux protocoles sanitaires sont envisageables. Pour l'instant, ils peuvent se tenir ces festivals, hein, mais la règle c'est 5000 personnes maximum et surtout assises.
Oui, alors parfois c'est trop de contraintes et ce n'est pas dans l'ADN d'un festival pour certains, surtout ceux de musiques actuelles comme les Eurockéennes de Belfort ou le Hellfest qui eux ont déjà annulé, c'est sûr, mais d'autres y croient, Angèle Châtelier, et ils sont en train de se réorganiser.
Oui, prenez le festival Jazz à Vienne, par exemple. Une quarantaine d'artistes sont déjà programmés sur 20 jours cet été, car les contraintes imposées sont plus faciles à respecter que d'autres festivals. Les amateurs de jazz ont l'habitude des concerts assis. Et puis, c'est un événement de taille moyenne, ce que souligne Benjamin Tanguy, directeur artistique de Jazz à Vienne.
Nous, notre jauge en assis debout, elle est de 7500. Si on fait du tout assis, on est à 5700. Et si on applique cette distanciation sociale, on retombe à 4000 personnes. Le festival 2021... C'est sûr qu'il ne sera pas pareil, mais on est assez proche, on va dire, de la configuration classique de Jazz à Vienne.
Chacun a sa solution pour que son festival puisse se tenir. À Carré, pour les Vieilles Charrues, on rallonge les festivités. Le festival se tiendra sur 10 jours au lieu de 4 pour pouvoir accueillir plus de monde sur la longueur. À Lyon, aux Nuits de Fourvière, on voit les choses en moins grand et on passe de 12 à 4 scènes. D'autres préfèrent changer de lieu. Le festival EuropaVox à Clermont-Ferrand sera exceptionnellement au stade Marcel Michelin pour permettre plus de distance entre les spectateurs. Le festival Rock in Évreux, lui, change même de nom et s'appellera pour son édition 2021 Rock in Chair, comprenez Rock sur chaise.
Rock in Chair,
c'est bon ça.
Angèle Châtelier, notre spécialiste musique à Europe 1.
Ouais, voilà, il faut s'adapter pour espérer avoir un peu de musique cet été. C'était le journal de François Geffrier, il est 5h09. Bonjour les Nike Meunier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports, donc avec à la une la Ligue des Champions, Paris qui perd hier, mais qui se qualifie.
Et voilà, vous l'avez vécu hein, hier soir sur Europe 1, qualification pour les demi-finales de la compétition. Paris s'est incliné 1-0 au Parc des Princes hier soir face au Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain finalement sauvé grâce à son 3-2 du match aller. Écoutez, un capitaine intérimaire satisfait hier soir, Presnel Kimpembe chez nos confrères d'RMC Sport.
Forcément beaucoup de joie, beaucoup d'émotion parce que voilà, ça a été un match très difficile. Mais voilà, on a perdu, mais le match il était plutôt abouti avec une grande performance de l'équipe. Ce soir, je tiens à le dire, je suis très très fier de mon équipe. On a fait le job, on a fait ce qu'il fallait, même si on perd, ça reste quand même très positif.
Le Paris Saint-Germain qui fait donc tomber le tenant du titre et désormais pour notre consultant Gernot Rohr, eh bien Paris a toutes ses chances.
On sait que depuis 2016-2017, toutes les équipes qui ont éliminé le Bayern en Champions League l'ont gagné. Donc le Paris Saint-Germain est le favori maintenant pour remporter ce titre. En tout cas, Paris est maintenant favori, quoi qu'il arrive. Et même si c'est City qui se qualifie, je pense que Paris a tous les moyens maintenant d'aller jusqu'au bout.
Et les Parisiens qui affronteront le vainqueur de la demi-finale Borussia Dortmund-Manchester City qui a lieu ce soir, tout comme le choc Real-Liverpool. Chelsea qui est également par ailleurs en demi-finale après son succès 1-0 hier soir face à Porto.
Le foot, mais côté féminin à présent, l'équipe de France féminine battue hier en amical.
Défaite 2-0 face aux États-Unis, défaite logique face à une équipe très rodée et solide et championne du monde en titre. Déception tout de même côté français car les Bleus restaient sur 16 matchs sans défaite. Autrement dit, elles n'avaient plus perdu depuis leur quart de finale de Coupe du Monde en France et déjà c'était face à ces mêmes Américaines.
Le chiffre du jour, c'est 100.
Oui, comme les 100 jours qui nous séparent désormais des Jeux Olympiques de Tokyo, des Jeux particuliers, sans public étranger, mais avec des athlètes de tous horizons qui se préparent comme ils le peuvent, à l'image de l'archer Jean-Charles Valadon qui ronge un peu son frein.
Les Jeux Olympiques, c'est un événement énorme, c'est merveilleux, mais c'est pas parce qu'on arrive à 100 jours, qu'on en est à 300, qu'on en est à 10, qu'il y a une pression différente. C'est juste que voilà, on a la chance d'arriver une fois tous les 4 ans au sommet de la pyramide, on va dire, de l'événement sportif, qui sont les Jeux Olympiques. Et si on a la chance de pouvoir y participer, bah c'est que du bonus. Plus on est prêt, plus on se sent un peu excité. Bien sûr, après, il y a le côté stress, le côté un petit peu difficile de la compétition. C'est juste que plus on approche, plus on est content.
Le vice-champion olympique de tir à l'arc, Jean-Charles Valadon avec Corinne Boulou.
Et à 100 jours des JO de Tokyo, c'est un grand champion français qui est sur Europe 1 ce matin. Teddy Riner sera l'invité de Mathieu Béliard dans le tête-à-tête Europe Matin tout à l'heure à 7h40.
Le tennis à Monte-Carlo, l'entrée en lice aujourd'hui de Rafael Nadal et du numéro 1 mondial Novak Djokovic. Hier, enfin, deux Français se sont qualifiés pour le deuxième tour, Jérémy Chardy et Lucas Pouille.
Merci Lénaïque, à tout à l'heure. Et voici maintenant le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie et mon pari gagnant sera le 307 Indro Park. Voilà un poulain prometteur, visiblement doué et qui a la particularité d'être toujours invaincu sur des parcours à main droite similaires à celui qu'il empruntera cet après-midi. 3 victoires pour autant de tentatives sur ce type de tracé obtenu à chaque fois avec une dérisoire facilité. Dès lors, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Notez bien, pour cet après-midi à Lyon-la-Soie, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 7, Indro Park.
C'est noté Thierry Léger. À tout à l'heure pour les pronostics du Quintet. Europe 1. Vous êtes sur Europe 1, il est 5h14, c'est l'heure d'ouvrir les journaux. Avec toute l'équipe du 5-7, Omblin est installée. Qu'est-ce que vous avez lu ?
Qui aurait pu imaginer un jour qu'à Hollywood, la Mecque du cinéma, l'épicentre du 7e art, des salles obscures fermeraient leurs portes, alors pas une ou deux, ce sont 300 écrans qui vont disparaître.
Et puis je vais vous raconter cette histoire incroyable, l'histoire d'un miraculé, un homme qui a tenu pendant 18 heures en mer dans une eau à 12 degrés, perdu à la dérive sur sa planche à voile. Ça s'est passé au large des côtes françaises. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h15 sur Europe 1, l'enlèvement d'une petite fille de 8 ans hier en fin de matinée dans les Vosges. Elle s'appelle Mia. Elle a été kidnappée par 3 hommes. Sa mère, qui n'a pas le droit de la voir seule, est soupçonnée également par les enquêteurs qui ont levé hier soir tard le dispositif alerte enlèvement. Mais l'enquête continue. Le vaccin Johnson & Johnson suspendu aux États-Unis après 6 cas de thrombose recensés parmi 6 millions d'Américains vaccinés avec ce produit. Le laboratoire reporte son déploiement en Europe. Bonne nouvelle pour l'usine automobile de Douvrin dans le Pas-de-Calais qui appartient à Stellantis, le nouveau groupe PSA. Un nouveau moteur essence va y être produit. Et puis le foot, 1-0 pour le Bayern, on le disait à Paris hier soir, mais c'est bien le PSG hein, qui file en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce sera face à Manchester City ou bien Dortmund.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. On commence par un coup d'œil à vos unes. Et d'abord, cette victoire du PSG. Énorme, titre le Parisien avec Mbappé en une. Le point serré, l'aventure continue donc en demi-finale de cette Ligue des Champions. Pour l'équipe, c'est le cri du cœur et cette fois, c'est la joie de Neymar qui est à la une. Les élections régionales font aussi les grands titres. Élections reportées d'une semaine, annonce le courrier Picard, tout comme Ouest-France. Nous voterons les 20 et 27 juin. Le Figaro se projette projette justement sur l'été et nous explique les conditions d'une sortie de crise. Emmanuel Macron à l'épreuve des 100 000 morts, c'est le titre de l'Opinion. La France va être le troisième pays d'Europe à passer cette barre symbolique, probablement dans les toutes prochaines heures. Vous lirez ce matin dans la Dépêche du Midi le témoignage de tous ceux qui traquent les doses restantes de vaccins. Et puis dans Libération, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti à la une, qui présente sa réforme de la justice. Faites sortir les jurés, titre le journal, qui pointe la généralisation des cours criminelles. Elles vont remplacer les jurys populaires dans un certain nombre d'affaires. On en parlera dans le journal de 5h30 et avec mon invité à 5h40. Voici les trois histoires qui nous ont marqués ce matin. Et Amblin, on part donc en Californie.
Oui, 300 salles de cinéma qui vont fermer là où le cinéma est roi, à Hollywood. C'est ce qu'ont annoncé les sociétés Arclight et Pacific Theater qui exploitent ensemble ces salles en Californie, c'est-à-dire dans le Figaro. Alors paradoxalement, cette fermeture définitive intervient alors que petit à petit, les cinémas à Los Angeles rouvrent. Avec des jauges limitées, évidemment, mais ça ne va pas suffire à sauver ces salles de ciné. Depuis un an, les pertes financières sont colossales. Alors, pour vous donner une idée, une autre grande chaîne de cinéma aux États-Unis, AMC Entertainment, enregistre une perte nette de 4,5 milliards de dollars. Hein, ça se compte en, en milliards. Voilà. Sans parler du public qui a clairement déserté les lieux. Alors, s'il vient, ils ne sont pas nombreux. Lorsque ces salles se remettent en activité, elles n'ont rien à projeter, pas ou peu de films, hein, et notamment des super-productions qui se font de plus en plus rares et qui restent à l'affiche que quelques jours. Le coup de grâce, ce sont les studios qui décident de diffuser leurs nouveaux films directement sur leur plateforme vidéo à la demande, comme Disney qui a diffusé par exemple son dernier Pixar Soul à Noël, ou Warner.
Même plus par les salles.
Non, et puis ce sera peut-être le monde de demain, effectivement. Alors pendant ce temps-là, Netflix, le roi du streaming, rachète le mythique Egyptian Theater sur Hollywood Boulevard, tout en annonçant la production de 70 films qui alimenteront directement sa plateforme. Tout ça est bien paradoxal. Le symbole le plus fort de cette crise sans précédent, c'est sans doute la fermeture du Cinérama Dôme, classé monument historique en 1998, qui a accueilli de nombreuses avant-premières. On le voit notamment dans le film de Quentin Tarantino. Il était une fois à Hollywood. Destin cruel pour ce Cinérama Dôme construit en 1963. Son écran géant avec triple projection était destiné à ramener le public dans les salles face à la concurrence de la nouvelle télévision dans les années 60. Voilà, il aura quand même résisté des décennies, mais il n'aura pas réussi à lutter contre la pandémie et les plateformes vidéo. 300 cinémas à Hollywood qui mettent la clé sous la porte, c'est dans le Figaro. Ouais, c'est...
C'est triste de voir des cinémas fermés comme ça à Hollywood, au berceau du cinéma. Et c'est vraiment le monde qui change avec ces plateformes vidéo. C'est à lire dans le Figaro donc ce matin. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'un miraculé. C'est à la une de Midi Libre ce matin. Un véliplanchiste toulousain a survécu pendant 18 heures, perdu en mer, allongé sur sa planche à voile, dans une eau à 12 degrés et dans une mer déchaînée. Il témoigne ce matin, il s'appelle Yann Covin, il a 52 ans. Alors ça remonte au week-end de Pâques, le samedi 3 avril. Une très belle journée de planche, dit-il. Petite session avec des amis à Gruissant, dans l'Aude. Plusieurs heures à tirer des bords et d'un coup, la météo qui change brutalement. Il parle d'une surpuissance de vent. Le vent se renforce, 75 km/h. Et surtout, le vent change de direction et la houle l'emmène au large avec des creux de plus en plus grands jusqu'à 1,50 m. Et puis, il n'a plus la force, plus l'énergie de tenir. Alors, il va rester sur sa planche et se laisser dériver. Ses amis ont rejoint la rive et donc forcément ont donné l'alerte. Mais les minutes et les heures vont passer. Je ne sais plus combien de fois je suis tombé à l'eau, raconte-t-il. Mon espoir, c'était de penser à mes enfants. Je me suis accroché. Il va jusqu'à boire de l'eau de mer, sa seule ressource. La tête ne fonctionne plus, c'est animal, dit-il. Tant que vous êtes vivant, vous comptez sur vos forces. Et puis la nuit tombe, il semble que la mer se calme. Il va dormir un peu sur sa planche. Vous pensez que c'est foutu, dit-il. Il pense à la mort, aux personnes qu'il va faire souffrir. Et puis à l'aube, le sauvetage, il ne s'en souvient pas vraiment, à part les mots qu'il entend d'un seul coup. Il est là, Il est 9h du matin, sa température corporelle est tombée à 27 degrés. Ses poumons sont chargés d'eau. C'est un avion mobilisé par la SNSM qui l'a repéré. Même les sauveteurs n'y croyaient presque plus. Les chances de le retrouver étaient quasi inexistantes, dit l'un d'entre eux. L'homme avait dérivé jusqu'à 16 km au large des côtes. Vous lisez cet incroyable témoignage avec ce titre « Miraculé ». À la une de Midi Libre ce matin. Voilà. On salue tous les sauveteurs de la SNSM qui ont mobilisé des hélicoptères, un avion et plusieurs bateaux pour retrouver ce véliplanchiste perdu qui dérivait sur sa planche pendant des heures, une nuit entière donc, hein, une nuit entière, 18 heures. Martin, on termine avec vous.
Oui, on parle souvent de la pollution des océans, ces sacs plastiques que l'on retrouve dans l'estomac des baleines ou des dauphins. Eh bien, sachez que nos déchets sont aussi un danger pour les animaux terrestres. Exemple, avec ce chameau à Dubaï, hein, des scientifiques ont retrouvé 2000 sacs plastiques dans son estomac. Un cas loin d'être isolé, hein, pardon. Cette même équipe scientifique a recensé 300 cas de chameaux morts après avoir mangé des déchets humains depuis 2008. Ces déchets, ça peut être des sacs plastiques, donc des emballages, des cordes. Ils s'agglomèrent dans l'estomac de l'animal jusqu'à former une masse indigeste semblable à une pierre qui entraîne des ulcères, une déshydratation, de la malnutrition et pour finir, la mort de ces animaux. Il faut dire que cette masse peut peser jusqu'à 60 kilos, hein, vous imaginez Sébastien, 60 kilos de déchets plastiques dans l'estomac, wow. C'est énorme.
C'est énorme. 2000 sacs plastiques retrouvés dans l'estomac de ce chameau, c'est-à-dire qu'il y a des sacs dans le désert, ils viennent d'où tous ces déchets?
Alors toujours selon ces chercheurs, ils viendraient de nos poubelles et de nos décharges. Comment arrivent-ils dans le désert? Eh bien à cause du vent très violent dans la région et qui transporterait ces déchets sur de très longues distances. L'objectif de ces scientifiques est d'ailleurs de montrer que le problème de la pollution plastique ne s'arrête pas à nos océans. Ils parlent même d'une pandémie de plastique, un terme qui fait peur en ce moment. C'est dans une tribune pour le Washington Post. Une pandémie qui toucherait à la fois nos montagnes, nos océans et même nos déserts. Ils lancent donc un appel pour abolir le plus de produits plastiques possible et favoriser les alternatives durables. Le chameau qui a mangé 2000 sacs plastiques, c'est à lire sur slate.fr.
Une pandémie de plastique, on parle souvent de cette mer de plastique dans l'océan, elle existe aussi. Dans les déserts. Martin Lange, merci. Ombline Roche, merci. C'était le pressing du jour, 5h23.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et pour les doigts dans l'assiette, nous sommes dans l'Isère ce matin à Grenoble précisément. Bonjour Thierry Cour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Vous êtes notre chocolatier confiseur. Comment allez-vous? Les fêtes de Pâques se sont bien passées pour vous?
C'est ça, on se remet gentiment parce que ça a été très très intense.
Ouais, j'imagine. Les chiffres sont bons malgré tout, malgré les mesures sanitaires qui sont tombées juste avant.
Alors depuis Pâques, ça s'est bien calmé parce que moi je suis en centre-ville et du coup la fréquentation est quand même vraiment vraiment en baisse. Mais on a eu la chance que le confinement tombe la chance entre guillemets. Le confinement tombe le samedi soir de Pâques, donc jusqu'au samedi on a très 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 bien travaillé.
Oui. Il y avait quand même moins de repas de famille pour ces fêtes de Pâques, mais il y avait quand même des chocolats sur la table cachés quelque part pour les enfants, je ne sais pas.
Incontournable les chocolats. Et puis bon, on sent que les gens aussi se font plaisir en allant plus vers la qualité, en augmentant un peu le panier moyen, donc... Nous, on s'en sort bien.
Bon, vous vous en sortez bien, tant mieux. C'est bien au moins d'entendre des bonnes nouvelles en ce moment. Alors, on parlait hier avec notre éleveur bovin de l'importance de transmettre aux jeunes tous ces métiers de l'agriculture et des métiers de bouche. Lui, encadrait son stagiaire depuis quelques temps. Vous avez des jeunes, vous, dans vos ateliers, Thierry Cour?
Oui, moi j'ai des apprentis en formation. J'en ai toujours eu depuis que je suis installé. Ça fera bientôt 20 ans. Donc on a formé plusieurs dizaines de jeunes et de moins jeunes, parce qu'on a aussi formé beaucoup de reconversions.
Ah oui? Vous avez des gens qui viennent d'où?
Eh bien, on a vraiment tous les horizons, parce que la pâtisserie, en plus, c'est quand même un métier plutôt à la mode, on va dire, depuis quelques années. Et on a beaucoup de reconversions, et ça démontre aussi un peu le problème de l'orientation dans notre pays. Mes grands-enfants sont en seconde et en troisième et je vois que le problème n'a pas vraiment évolué par rapport à...
C'est pas facile.
À quand moi j'étais à leur place, parce que finalement, vers nos métiers manuels, on a tendance à envoyer que des jeunes qui sont souvent un peu en échec scolaire, quoi. Et malheureusement, on a beaucoup de gens qui font des études, le bac et qui commencent la fac, etc. Et puis qui se retrouvent à 25 ans en se disant « Mais non, mais moi j'ai envie de faire un métier manuel. » Ouais. Alors c'est vrai que les choses sont peut-être un peu plus faciles qu'avant, pour se rediriger après vers ces métiers-là. Moi, j'ai fait un bac général, un BTS, alors bon, dans la cuisine, et après j'ai passé mon CAP quand j'avais 23 ans. Donc,
oui, c'est-à-dire qu'il est jamais, il est jamais trop tard pour trouver sa, pour trouver sa voie. Et tiens, vous, justement, vos enfants, ça les motiverait, ça leur plairait de reprendre derrière vous, de vous suivre ou pas du tout, pas spécialement.
Pour l'instant, non. Chez les deux grands, non, je vois pas ça dans leurs yeux. Mais bon, moi, je suis moi-même pas issu de parents artisans pâtissiers, donc. Chacun trace sa route. Et après, j'ai un petit dernier qui aura bientôt 8 ans. Alors, peut-être que lui, ça lui plaira. Il aime bien traîner dans le labo, mais plutôt pour piquer des chocolats et des bonbons à droite à gauche. Donc, pour l'instant, on verra bien.
Ouais, on ne peut pas le blâmer, on le comprend. On le comprend. Merci à vous, Thierry Court. Et bon, reposez-vous après ces fêtes de Pâques.
Ouais, on va prendre quelques jours de vacances bientôt.
Très bien. À bientôt, en tout cas, dans les doigts dans l'assiette.
Merci. À bientôt, ouais. Au revoir.
5h27 sur Europe 1.
J'étais pas le même vendredi. T'avais pas non plus croisé ma vie. J'étais pas pareil à gueuler sous la pluie. Je t'ai attendu, vois-tu, et depuis. C'est pas demain la veille que je maudirai le réveil. Et réveille-moi si je ne m'émerveille pas devant la vie que l'on a tant qu'on vit tous les deux. Pas demain la veille que je maudirai le soleil, car le soleil c'est toi et moi solennel pour une fois. Je ris pas. Oh, oh. On peut voir le monde en tout petit ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit. Moi je t'aimerai toute la vie pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Hey. Est-ce qu'on sera les mêmes toute la vie? Même rire aux lèvres et même envie. On fera mentir l'époque. On va quitter Paris. Puis je te chanterai en cloque en attendant le petit. Je ris pas. Oh, oh. On peut voir le monde en tout petit ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit. Moi je t'aimerai toute la vie pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux. Je veux qu'on les prenne à deux. Et les coups de poing, les coups de vieux. Je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux. Je veux qu'on les prenne à deux. J'y vais.
Venez sur Europe 1. Vous aviez entendu sa déclaration musicale à sa belle-fille avec beau papa, mais c'est autour de sa femme avec ce nouveau single pour de vrai sur Europe. Laurent Cabrol, à quoi va ressembler notre journée ?
Bon, mais c'est une journée ensoleillée sur une grande partie de la France, avec quelques nuages un peu plus présents sur les régions de la moitié nord. Mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est une belle journée presque d'hiver. Hein. Ce matin, il fait encore entre moins 3 et plus 4 degrés. C'est une fourchette quand même très basse pour la saison. Nous n'avons que 2 degrés à Paris et 0 à Lille. Dans la journée, le thermomètre affichera un peu comme hier, entre 11 et 19 degrés. 19 à Marseille, nous avons 12 degrés à Paris. Et ces températures donc illustrent bien le type de temps que nous avons depuis plusieurs jours et qui va se répertorier à la fois aujourd'hui, demain et après-demain. Donc un beau temps d'hiver ou un beau temps d'automne ou un beau temps de... Enfin, c'est du beau temps, c'est essentiel.
Voilà, bah, il fait beau. Allez, à tout à l'heure, Laurent.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bon réveil avec Europe 1, tout de suite un nouveau journal. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
5h30.
gagné contre Manchester United, contre Barcelone, grand Barcelone, contre grand, la meilleure équipe pour moi, Bayern. Ça veut dire beaucoup de choses. On est vraiment là, on est dans le grand club.
La satisfaction hier soir du président du PSG. Les Parisiens ont fait tomber le tenant du titre, le Bayern éliminé, après pourtant s'être imposé hier soir au Parc des Princes. Entre la vaccination à domicile et le vaccinodrome, voici le Vaccidrive, des injections dans sa voiture. Expérimentation depuis hier dans l'Hérault. Dans ce journal aussi, un projet de loi sur la justice en Conseil des ministres. Le texte prévoit notamment de généraliser les cours criminels pour les crimes passibles jusqu'à 20 ans de prison. Et puis vous comprendrez pourquoi consommer trop de viande peut accélérer la déforestation à l'autre bout du monde.
Après le journal, la défiance des magistrats envers leur ministre Éric Dupond-Moretti et sa réforme de la justice qui provoque les foudres des juges. Explication avec Sarah Massoud, mon invitée dans 10 minutes, la secrétaire nationale du syndicat de la magistrature.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le PSG parmi les quatre grands d'Europe. Qualification hier soir pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Alors c'est vrai, les Parisiens ont perdu 1-0 contre le Bayern Munich, mais les trois buts inscrits à l'extérieur la semaine dernière ont suffi.
Cyril de la Morinerie, vous nous avez fait vivre ce match hier soir en direct sur Europe 1. Une rencontre marquée par la détermination des Parisiens qui n'ont pas lâché face aux assauts bavarois.
Oui, c'était une guerre sur le terrain. C'est ainsi que le capitaine Presnel Kimpembe a décrit ce bras de fer. Les Parisiens ont tremblé, un but de plus et c'était l'élimination, mais la digue a tenu. Se félicite l'entraîneur Mauricio Pochettino, qui est resté zen près de son banc de touche.
Je l'ai vécu tranquillement, normal. J'étais focalisé sur mes joueurs en essayant d'aider l'équipe. L'idée était la même et je crois que l'on a mieux défendu.
En première mi-temps, on a cru revivre la finale perdue par Saint-Etienne en 1976 et ses maudits poteaux carrés. Neymar a touché deux fois les montants. Mais le Brésilien aurait mérité d'être récompensé, analyse notre consultant Giroud.
Il a été dans un état moral dans lequel il devrait être toujours. C'est-à-dire qu'il a joué. Il a joué avec l'arbitre, il a joué avec ses adversaires d'une manière correcte. Il y a quelques chefs-d'œuvre techniques.
Pour la troisième demi-finale de leur histoire, les Parisiens retrouveront le Borussia Dortmund ou Manchester City qui s'affrontent ce soir. Une dernière étape à franchir avant de rallier Istanbul où se déroulera la finale.
Voilà, rendez-vous donc peut-être à Istanbul et en tout cas les Parisiens qui ont donc rendez-vous pour ces demi-finales fin avril. Hier soir aussi, qualification de Chelsea.
Près de 6000 patients Covid en réanimation, c'est du jamais vu depuis un an et le pic de la troisième vague n'est pas encore atteint.
Selon l'Institut Pasteur, ce chiffre devrait continuer d'augmenter dans les prochains jours. La France qui surveille de près l'évolution des variants, le brésilien notamment. Pour éviter sa propagation, les liaisons aériennes entre l'Hexagone et le Brésil ont été suspendues. Hier, Victor Delorde, que représente aujourd'hui ce variant dans les contaminations en France ?
Alors pour le moment, le variant brésilien d'IP1 ne représente que 0,5% des contaminations en France, c'est donc très peu. Si on regarde plus précisément les territoires, il est davantage présent dans le nord-est du pays, mais aussi dans la Creuse, en Vendée et en Guyane. Si ce variant préoccupe tant les autorités, c'est parce que les vaccins sont moins efficaces contre lui. Suspendre les vols entre la France et le Brésil, c'est donc une bonne chose, mais c'est insuffisant pour Christine Rousiou, virologue et membre de l'Académie de médecine.
Il faut contrôler ce qui se passe sur le pays, avec du séquençage en très grand nombre de virus pour savoir où il y a du virus brésilien et comment il faut isoler ces personnes.
Ce qui inquiète encore plus Yannick Simonin, virologue à l'INSERM, c'est la situation totalement hors de contrôle au Brésil.
Une forte circulation virale et une forte circulation de variants dans un pays qui ne contrôle pas son épidémie, ça peut aboutir à l'apparition de nouveaux variants. Et donc vraiment, ce qui est important, c'est d'empêcher ces éventuels variants de venir sur le territoire.
La question est désormais géopolitique. Comment mettre la pression sur le Brésil pour mieux contrôler son épidémie ? Car pour le coup, les scientifiques, eux, sont formels. Laisser circuler trop facilement le virus, c'est prendre le risque de voir des variants plus dangereux apparaître dans les prochains mois.
Une nouvelle épine dans le pied de la vaccination. Le laboratoire Johnson & Johnson, dont le vaccin unidose devait commencer à être administré en France dans les prochains jours, retarde le déploiement de ces doses en Europe. Son sérum fait l'objet d'investigations aux États-Unis pour de rares cas de thrombose.
La vaccination qui, près de Montpellier, se fait aussi depuis hier en voiture. Un premier vaccin drive qui pourrait bien essaimer à travers toute la France. Reportage à Saint-Jean-de-Védas de Benjamin Péter pour Europe 1.
Si on devait m'opérer du cœur, ça m'affolerait un petit peu, mais pour une piqûre, ça m'affole pas du tout.
Guy aura mis une trentaine de minutes à peine pour sa première injection de Pfizer sans jamais quitter son siège derrière le volant. Alain, lui aussi, est désormais vacciné grâce à ce procédé qui lui convient mieux qu'un vaccinodrome.
Je préfère cette solution-là à la solution file d'attente dans un hangar. Là, parce qu'il y a une certaine intimité, on est dans sa voiture, autonome, et on fait pas la queue bêtement derrière sans personne. On se sent plus tranquille, on se sent plus... on se sent chez soi.
Les voitures défilent, on contrôle l'éligibilité de chacun.
Votre carte d'identité, s'il vous plaît, carte vitale et papier d'éligibilité.
Pour Pascal Alexandre, le directeur de l'ARS Hérault, qui a validé cette expérimentation, ce drive devrait permettre de toucher un autre public.
Pour un certain nombre de personnes, c'est un argument important de se dire, voilà, ils sont dans leur habitacle, dans leur voiture, ils ont le sentiment que c'est presque de la vaccination à domicile, et ça peut en effet faciliter le fait de franchir le pas pour un certain nombre de personnes qui sinon seraient venues probablement plus tardivement.
Toute la semaine, une centaine de patients par jour va pouvoir se faire vacciner ici, mais l'idée c'est aussi de multiplier les pistes, voire de dupliquer ce dispositif ailleurs pour accélérer la campagne de vaccination. À Saint-Jean-de-Védas, Benjamin Péter, Europe 1.
En Guadeloupe, forte hausse du nombre de cas en une semaine, plus 41% selon la préfecture et l'agence régionale de santé. De nouvelles mesures restrictives pourraient être annoncées aujourd'hui.
5h37 sur Europe 1. Des procès filmés et diffusés. Des réductions de peine automatiques supprimées. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, présente aujourd'hui son projet de loi en Conseil des ministres.
Pour restaurer la confiance en l'institution, le garde des Sceaux mise aussi sur la généralisation des cours criminels chargés de juger les crimes dont les peines peuvent aller jusqu'à 20 ans de prison, des dossiers examinés jusque-là en cour d'assises. À l'époque où il était pénaliste, le ministre n'avait pas de mots assez durs contre ces cours criminels dans lesquels ne siègent pas des jurés, mais des magistrats. Et bien aujourd'hui, Marion Dubreuil, il juge qu'elles sont un rouage essentiel pour rendre la justice.
Oui, Éric Dupond-Moretti lui-même assure qu'il renforce le poids du jury populaire avec ce projet de loi. Il demande la présence de 7 jurés contre 6 actuellement en cour d'assises pour contrebalancer les 3 juges professionnels dans la décision. Ça, c'est pour le message politique, car dans les cours criminelles, il n'y a plus de jurés, mais bien 5 magistrats pour juger des crimes passibles de 20 ans de prison, des viols pour la majorité. Pour l'avocat Franck Berton, qui a longtemps côtoyé Éric Dupond-Moretti aux assises, c'est un désaveu.
Comment imaginer que celui qui... a été l'un des plus grands avocats de cour d'assises, aujourd'hui en soit le fossoyeur, celui qui veut les détruire et les remplacer par des cours criminels, celui qui envisage finalement de retirer la justice au peuple au profit d'une justice qu'on voudrait spécialiser, qui ne serait rendue que par des magistrats.
À la chancellerie, on fait valoir des délais d'audiencement 2 fois moins importants devant une cour criminelle, moins d'appels aussi pour des peines identiques, avec l'objectif de désengorger les assises et donc de juger plus vite des accusés qui encourent 30 ans de prison, voire la perpétuité.
Voilà un projet de loi qui suscite plutôt la défiance des syndicats de magistrats. On verra cela avec Sarah Massoud, mon invitée, juste après le journal. Elle est la secrétaire nationale du syndicat de la magistrature.
L'alerte enlèvement brièvement déclenchée hier soir après le rapt d'une petite fille de 8 ans dans les Vosges. L'enfant avait été placé chez sa grand-mère. Les enquêteurs soupçonnent sa mère d'avoir commandité son enlèvement par 3 hommes hier matin.
Quand consommer de la viande provoque la déforestation à l'autre bout du monde, la Chine et l'Europe parmi les 2 plus mauvais élèves selon un rapport du WWF publié aujourd'hui.
Et pour bien comprendre les liens entre notre consommation et les atteintes à la forêt, l'ADEME dévoile aujourd'hui un nouveau mode de calcul très éclairant. Virginie Salmen.
Oui, visualiser un terrain de football. Pour nourrir un Français végétarien, il faut cultiver l'équivalent d'un quart du terrain, une petite surface agricole. Pour un consommateur de viande moyen, c'est-à-dire un steak haché chaque jour, les 2 tiers du terrain sont nécessaires. Et pour quelqu'un qui mange beaucoup de viande, au moins une entrecôte chaque jour, là, il faudra carrément les 3 quarts du terrain de football en terres agricoles. Alors pourquoi l'élevage nécessite autant de champs ? Eh bien, pour faire pousser de quoi nourrir les bœufs, les poulets et manger toujours plus de viande, ça veut dire faire pousser toujours plus de soja, notamment en Amérique du Sud, et pour dégager de la place, couper des arbres, déforester. Pour éviter ça, il faudrait consommer un peu moins de viande d'abord, nous disent les ingénieurs de l'ADEME, et puis réussir à modifier l'alimentation de nos troupeaux.
Virginie Salmen. Une réunion prévue jeudi à l'Élysée, demain donc, pour commencer à discuter des conditions de réouverture des lieux fermés à cause du Covid. Une réouverture que certains professionnels commencent déjà à préparer.
Illustration au nord de Paris, dans l'Oise. Ici, c'est un parc d'attractions au grand air qui a même commencé à embaucher des saisonniers pour préparer la reprise. Reportage de Zoé Pallier.
Là, c'est vraiment les petits détails qu'on soit vraiment au top. J'ai hâte de voir les gens en profiter et voir leur réaction.
Les pieds dans le sable, les ouvriers passent un dernier coup de ponceuse à l'ombre de la Silver Mountain. Ce nouveau Grand 8 a passé les premiers tests de sécurité. Reste le décor, quelques palmiers à replanter et des rochers à fixer.
Les wagons là sont prêts à partir.
Bruno Le Maire est le responsable technique du parc. Il coordonne ce chantier à 3 millions d'euros.
Alors là, on est à 15 mètres de haut. Quand vous allez monter là avec le train, vous allez tout voir. Tout le parc avec sa musique, sa foule, le bruit des manèges, le bruit des enfants qui hurlent. Ça sera magnifique.
Et pour guider ses clients tant attendus, 200 travailleurs saisonniers. Antoine Lacarrière, le directeur du parc, a déjà commencé le recrutement.
Avant qu'on réouvre, ils seront protégés, ils seront en chômage partiel parce que c'est important, comme on n'a pas la date de réouverture, d'être certain que ces personnes seront bien disponibles, formées et ainsi pouvoir tout de suite répondre à la demande. Et dans les bonnes conditions, on pourra ouvrir le parc.
Une réouverture espérée avant le début de l'été. Pour rentabiliser ces investissements, la mer de sable compte sur le retour des habitués et sur la curiosité de nouveaux visiteurs.
Voilà, la mer de sable à Ermenonville, au nord de Paris, dans l'Oise.
C'était le journal de Marion Calais, il est 5h41. Et on trouve Thierry Léger pour les courses.
Ce quintet va se courir sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie dans la troisième étape du Grand National du Trot avec 16 partants répartis sur trois poteaux différents de départ, s'échelonnant de 3250 à 3300 mètres. Eden Basque, le numéro 7, confirmé sur des parcours corde à droite comme celui de cet après-midi, me semble être un bon favori. Je sais que son entraîneur, Nicolas Hensch, l'a réservé depuis plusieurs semaines en vue de cet objectif. Son principal rival sera Elvis Duvallon, le numéro 15, en net regain de forme et aussi à l'aise sur les parcours corde à droite que corde à gauche. Sa dernière fin de course, le 27 mars à Vincennes, laisse augurer une très grande performance. Ensuite, je vous recommande Favorite Fligny, le numéro 8, probante 3e du quintet de mercredi dernier à Angers, mais aussi Degana Ouida, le numéro 6, dont les deux dernières sorties avaient pour mission de peaufiner sa condition physique pour cette course visée de longue date. Enfin, les numéros 13, Ce Retour d'Oscar, 2, Clyde Barrow, 10, Diva du Granit et 16, Biloca du Boscay sont autant de possibilités pour compléter la combinaison gagnante de ce quintet. Mon pronostic, 7, 15, 8, 6, 13, 2, 10 et 16.
C'est noté, Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
On vous en parlait dans le journal, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti présentera ce matin en Conseil des ministres sa réforme de la justice qui sera ensuite discutée le mois prochain au Parlement. On s'arrête sur les mesures que cette loi prévoit avec ma première invitée ce matin qui représente le syndicat de la magistrature. Bonjour Sarah Massoud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le 5-7. Vous êtes la secrétaire nationale de ce syndicat de la magistrature. Éric Dupond-Moretti se donne comme objectif de restaurer la confiance en la justice. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il y a bien besoin de la restaurer, cette confiance, mais ce n'est pas avec ce projet de loi tel qu'il est décliné et écrit que cette confiance va être restaurée. C'est vrai que la très très grande majorité des professionnels de justice sont effarés par ce texte, parce que plutôt que de restaurer la confiance, il va instaurer la défiance envers l'institution judiciaire.
Pourquoi la défiance ?
La défiance parce que il y a beaucoup de dispositions qui touchent à des points clés hein, de la procédure pénale, du droit pénal, sur la prison, qui sont des vrais sujets, mais qui sont traités de manière extrêmement indigente, par le bout de la lorgnette. On a beaucoup d'affichage, beaucoup de mousse. Alors, il y a des dispositions qui ne sont pas inintéressantes, mais elles sont inachevées. Donc, on voit bien que les services d'Éric Dupond-Moretti ont travaillé à la va-vite, dans un but d'affichage très politique. Éric Dupond-Moretti nous dit qu'il n'a pas beaucoup de temps pour réformer la justice. Et aujourd'hui, du coup, il nous propose un texte qui, pour certaines dispositions, vont même faire du mal à l'institution et aux justiciables.
Alors, on va rentrer un tout petit peu dans le détail. Prenons peut-être un certain nombre de ces mesures les unes après les autres. Il y a notamment la suppression de la réduction automatique des peines de prison. Désormais, ce sera uniquement au mérite sur décision du juge en fonction du bon comportement des détenus. Est-ce qu'au moment où on accuse souvent la justice d'une forme de laxisme, ce n'est pas un message positif qui peut être envoyé par cette mesure ?
Absolument pas. Ce n'est pas du tout un message positif qui est renvoyé à travers cette mesure, qui a étonné tout le monde, hein, qui a étonné les surveillants pénitentiaires, les juges, les parquetiers, les conseillers d'insertion et de probation, qui a étonné la gauche et la droite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce dispositif des crédits réduction de peine automatique, en fait, c'était un dispositif qui a été mis en place en 2004 par la droite, Et c'était un dispositif extrêmement pragmatique, en fait. C'est-à-dire que pour toutes les nouvelles peines de prison, eh bien, il y avait des crédits automatiques. Et si jamais le détenu se comportait mal, ne payait pas les parties civiles, outrageait ou violentait des surveillants pénitentiaires, ou bien ne préparait pas suffisamment sa sortie, eh bien, il y avait la possibilité pour le juge, eh bien, de supprimer ces réductions de peine. Donc, du coup, c'était une espèce de carotte qui permettait à la fois pour les prisons d'être un peu régulées et pour les surveillants d'avoir un peu la paix s'agissant du déroulement de certaines détentions, en sachant que les détenus, dans la très grande majorité des cas, quand même, se comportent très bien. Et puis surtout, ça permettait d'éviter du travail supplémentaire pour les juges et l'administration pénitentiaire à ce niveau d'entrée. Aujourd'hui, va falloir passer devant un juge dès qu'il va y avoir un problème. Donc vous imaginez la charge de travail que vont devoir supporter les juges d'application des peines, les greffiers d'application des peines, l'administration pénitentiaire, et tout ça sous couvert de « il faut qu'il fasse des efforts ».
C'est populiste selon vous, parce que c'est vrai que ça peut ne pas être compris, là vous venez de nous l'expliquer, mais ça peut ne pas être compris qu'un détenu entre en prison sachant très bien qu'il aura de toute façon des réductions.
Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors après, vous pouvez faire comprendre le contraire. Je n'ai pas dit que c'était automatique. C'est-à-dire qu'à l'entrée, ces crédits d'exonération de peine sont effectués, mais à tout moment, elles peuvent lui être retirées. C'est pour vous dire que des fois, il faut juste prendre quelques secondes pour expliquer véritablement. Alors c'est vrai que c'est un peu technique, mais ce n'est pas un cadeau qui est fait. C'est-à-dire que ces réductions de peine, elles peuvent être retirées. Et les détenus, je peux vous dire qu'ils savent très bien que ces réductions de peine peuvent être retirées. Donc en fait, ça va être un échec à tout point de vue. Donc c'est vraiment la disposition la pire en fait de ce projet de loi.
Alors Sarah Massoud, passons à la deuxième mesure, enfin celle peut-être qui va faire le plus parler, qui va permettre de filmer, de diffuser à la télévision les audiences, alors pas en direct, une fois que les décisions seront rendues. Est-ce que ça peut aider, comme le dit Éric Dupond-Moretti, à faire de la pédagogie finalement, à peut-être mieux faire connaître le fonctionnement de la justice ?
Alors là, pour le coup, vous voyez, je vais en dire du bien de ce projet de loi un peu. C'est une disposition sur laquelle nous, au syndicat de la magistrature, et pourtant on est une voix minoritaire, sur laquelle on est favorable. On considère que oui, il faut absolument que la justice soit plus lisible, plus compréhensible. C'est vrai qu'on emploie un vocabulaire parfois qui est très technique. Le droit, c'est compliqué. C'est pas facile de rentrer dans les salles d'audience, même si pour beaucoup, elles sont publiques. Donc, pour le coup, c'est une belle idée. C'est un beau dispositif. Sauf que les modalités et la manière dont est écrit le texte est extrêmement flou sur des points très importants, notamment sur qui va donner l'autorisation pour filmer ces procès, quel procès, dans quelles conditions. Tout ça, c'est assez flou. Alors aujourd'hui, on nous dit que c'est dans une visée pédagogique. On attend de voir. Le décret d'application va être essentiel. Mais oui, c'est une très belle idée, mais c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus urgent. Et surtout, c'est un dispositif qui est extrêmement technique et qui aurait mérité, à notre sens, peut-être une expérimentation ou en tous les cas, l'avis des professionnels de justice et puis l'avis aussi des professionnels de l'audiovisuel. Parce que c'est très technique. Comment on place les caméras? Est-ce qu'il y a montage, pas montage? Véritablement, quelles conséquences ça peut avoir aussi sur le comportement des personnes qui seraient filmées? Donc, c'est fait dans la précipitation. Voilà, c'est une bonne idée, mais la manière dont c'est décliné, c'est pas forcément très précis. On est encore dans le flou et c'est peut-être précipité.
Cette loi précipitée, c'était le terme que vous employiez aussi pour qualifier cette loi en général. Quelles mesures, vous attendiez? Quelles mesures de fond pour la justice? Qu'est-ce qui manque dans ce texte?
Ce qu'il manque surtout, c'est des moyens. Alors après, c'est vrai que j'ai l'impression de dire tout le temps et sans cesse la même chose et que l'opinion et que finalement la grande majorité des personnes qui nous écoutent sont habituées à entendre dire que la justice est pauvre. Bah oui, la justice est pauvre. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, pour que véritablement on restaure cette confiance, il faut davantage de juges, il faut davantage de greffiers, il faut davantage de psychologues, il faut davantage d'éducateurs, il faut davantage de conseillers d'insertion et de probation, il faut du temps d'audience. Aujourd'hui, par exemple, il y a une pression énorme. Je vous donne un exemple. Il y a une pression énorme sur les juges d'affaires familiales. Et aujourd'hui, les audiences sont quasi minutées. Comment est-ce que vous voulez que les gens comprennent le sens d'une décision alors que ça touche à la garde des enfants, à la pension alimentaire, à des sujets qui sont extrêmement importants dans la vie des personnes? Et un juge d'affaires familiales, il va devoir passer 10, 20, 30 dossiers dans un créneau horaire qui est extrêmement rétréci. Pouvoir passer du temps à écouter les uns et les autres, pouvoir expliquer les mesures qui sont prises, les décisions qui sont prises, ça demande plus de temps d'audience. Et qui dit plus de temps d'audience dit plus de juges, plus de greffiers.
Sarah Massoud, quand on vous écoute parler de ce projet de loi et de votre ministre, on a le sentiment que la guerre continue finalement entre les magistrats et l'avocat devenu ministre.
J'ai envie de dire, avec ce projet de loi, en fait, on n'est pas du tout sur ce terrain-là. C'est pas une question de guerre. C'est une question que l'institution judiciaire est très affaiblie. L'institution judiciaire a besoin de moyens, a besoin de juges. L'institution judiciaire a besoin d'être comprise. On a des prisons qui sont surpeuplées, on a des collègues qui sont à bout de souffle. On est dans une vision très gestionnaire du service public de la justice. Donc aujourd'hui, en fait, c'est sur ces sujets de fond qu'on a envie de discuter. C'est pas une question d'Éric Dupond-Moretti ou pas Éric Dupond-Moretti. Là, c'est une question de comment rendre une justice de façon plus efficace et plus humaine et plus proche des gens. Donc on est très attaché à ces principes-là. Et aujourd'hui, on voit encore que ce projet de loi, cet énième projet de loi, ne répond pas à ces exigences, en fait.
Merci à vous, merci Sarah Massoud d'avoir été l'invitée du 5-7 ce matin, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Europe 1.
Allez, on parcourt la France à 6h10 à la recherche des bonnes idées. C'est la France Bouge à suivre avec vous, Lénaïque Monnier. Où est-ce qu'on va ?
À Clairet, dans l'Aube, où 150 arbres fruitiers ont joué les juges de paix dans un conflit qui opposait des buses à des poules.
Ah oui, bon, vous allez nous raconter ça tout de suite.
Europe 1. Sébastien Krebs.
5h52 sur Europe 1. L'enlèvement d'une petite fille de 8 ans hier en fin de matinée dans les Vosges. Elle s'appelle Mia. Elle a été kidnappée par 3 hommes. Sa mère, qui n'a pas droit de la voir seule, est soupçonnée également par les enquêteurs. Le coût est astronomique de la crise du Covid. 424 milliards d'euros en 3 ans. Chiffre dévoilé par le ministre des Comptes Publics qui promet que la fin des aides aux entreprises sera progressive. Et puis ils avaient organisé une soirée dans un gîte transformé pour l'occasion en discothèque. 2 hommes d'une 20aine d'années mis en examen hier à Toulouse. L'un d'eux a même été placé en détention provisoire.
Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Sur Europe 1, nous traquons les initiatives positives chaque jour. C'est la France Bouge. Avec vous, Lénaïque Monnier, direction la région de Troyes.
Oui, je vous raconte comment une prise de bec entre volatiles a été réglée grâce à une initiative locale plutôt originale, à la demande de Coralie et de Louis, un jeune couple qui a ferme bio depuis 200 ans. Les voici donc installés sur le domaine de Courcelles. Là, ils se mettent à la permaculture, à l'élevage de poules. Celles-ci sont logées dans des enclos mobiles pour laisser l'herbe se régénérer. Sauf qu'à force de partir en vadrouille, eh bien, les poulettes se mettent en danger. Sur le domaine, on trouve le plus gros pigeonniers de tout le département de l'Aube, où ce sont le plus souvent des buses qui viennent se nicher, faisant un carnage dans le poulailler de Coralie et de Louis.
Alors il faut se débarrasser des buses, mais sans les tuer, comment on fait ?
Alors justement, les buses et les busards, effectivement, sont des espèces protégées, elles doivent rester dans leur milieu naturel, et c'est comme ça que le jeune couple a lancé une opération, un arbre planté, une poule sauvée, car ces gallinacées, finalement, sont assez malins pour se cacher sous les branchages, et en plus, on fait coup doux, puisque ça fait de l'ombre.
Est-ce que ça a fonctionné ?
Oui, 7000 euros de récolté, ça a permis de planter 150 arbres fruitiers, des pommiers, des cerisiers, des pruniers. D'autres vont suivre à l'automne. Et si vous avez participé, si vous avez donné un petit viatique, eh bien votre nom sera sur un écriteau au pied de votre arbre.
D'accord. Alors donc il suffit de planter des arbres.
Et les poules se cachent dessous. Ça
et
paraît
on protège
bête,
les poules.
C'était efficace.
C'était pas si compliqué. Voilà, il y a des bonnes idées. Les Français ont des idées. On le dit tous les matins. Merci à vous, Lénaïque Monnier. 5h54. Martin Lange, qu'est-ce qui anime les réseaux sociaux ce matin ?
Eh bien, c'est la ville d'Osgor, hein, bientôt théâtre d'un spring break à la française. De nombreux jeunes se donnent en tout cas rendez-vous sur TikTok pour faire la fête cet été dans la station balnéaire landaise. Alors, sur la plateforme,
Pourquoi Osgor ? On ne sait pas.
Eh bien, je vais vous expliquer, peut-être. Enfin, essayez de vous expliquer. Alors, sur la plateforme, hein, le mot-clé Osgor a déjà été partagé près de 20 millions de fois. Hein. Le phénomène touche même Twitter, où on peut lire des messages comme expliquez-moi pourquoi toute la France débarque à Osgor cet été.
Alors, expliquez-moi pourquoi toute la France débarque à Osgor cet été. D'où c'est parti tout ça ?
Alors sur place, on a mené l'enquête hein, pour savoir d'où venait le phénomène. Tout serait parti de photos et vidéos publiées par les habitants eux-mêmes. Hein. Déjà sur la plateforme TikTok, des plages à n'en plus finir, des forêts de pins, des surfeurs, de quoi faire saliver les ados coincés chez eux par le confinement. Et le premier à dégainer, c'est Enzo. Hein, avec 10 amis, il décide de louer une maison pour cet été dans les Landes et partage cette vidéo à ses 7000 followers.
Vous venez de toute la France, on va faire nos meilleures soirées et ça va être extrêmement caliente. Bon, si vous avez des petites bandes, tout ça, on peut faire des sacrées soirées en tout cas. Voilà, je pose ça là.
Alors la vidéo devient immédiatement virale, hein, depuis tout TikTok veut venir
les
passer...
Les parents vont être ravis, je pense. Bon,
pas sûr. Tout TikTok veut venir passer ses vacances à Osgor et les internautes regorgent d'imagination pour faire passer le message.
Bon, c'est le nouveau Miami, si je comprends bien, Osgore. Comment ça réagit sur place?
Eh ben, le phénomène inquiète un peu, hein, il faut le dire. Osgore, comme tout le sud-ouest de la France, est relativement épargné par le Covid, hein, voire déferler des hordes de jeunes pour faire la fête avec un respect des gestes barrières qui risque d'être tout relatif. Certains voient ça d'un mauvais œil, hein, mais les Osgoriens gardent quand même leur humour, à l'image de cet internaute toujours sur TikTok.
J'ai une question. Les touristes, vous êtes combien à venir chez nous cet été-là? Non, parce que je vois que ça n'arrive pour soi. Les TikTok, oui, on arrive à Osgore. Osgore déjà. C'est pas possible, il n'y a pas la place. Bande d'envahisseurs.
Bande d'envahisseurs,
voilà.
On dit donc Osgore.
Osgore, attention, s'il avec vous plaît. L'accent.
20 millions de fois. Non, les réseaux sociaux sont complètement fous parfois. 20 millions de fois, on verra. On verra si.
On verra cet été. Rendez-vous cet été.
Afflux de la jeunesse à Osgore. En tout cas, ça a beaucoup de com' pour la station balnéaire, malgré tout. 5h57. Merci Martin Lange. L'histoire du jour de Christophe Ondelat, c'est l'emprise d'un père, incestueux. Betty a 8 ans, sa sœur Virginie, elle aussi. Toutes les deux sont violées par leur père avec la complicité de leur mère. À 18 ans, Betty va avoir le courage de porter plainte, de sortir de cette emprise. C'est l'histoire Ondelat raconte, à retrouver à 14h tout à l'heure et dès maintenant en podcast sur europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bienvenue si vous nous rejoignez au réveil sur Europe 1, il est presque 6h, le 5-7 continue, nous sommes le mercredi 14 avril et Paris est à la fête, vous l'avez suivi en direct hier soir sur Europe 1.
C'est fini, le Paris Saint-Germain qualifié.
C'est la première fois qu'un club français le fait et le Bayern Munich est tombé.
Cyril Delamorinerie, Julien Froment, première fois qu'un club français est deux fois de suite en demi-finale de la Ligue des Champions. Le PSG qui se fait une place dans le dernier carré de la Coupe d'Europe. Parmi les grands, Journal des Sports, complet bien sûr dans 10 minutes. L'actualité, c'est aussi la politique ce matin. Et ça y est, on connaît la date des élections régionales et départementales. Ça a été un feuilleton. Cette fois, elles sont décalées d'une semaine. Notez bien, ce sera les 20 et 27 juin. Explication Jean Castex hier, à l'Assemblée.
Ce n'est qu'une semaine, mais une semaine supplémentaire, une semaine de vaccination en plus, soit au moins 2 millions de personnes vaccinés. Une semaine de préparation en plus, tout compte.
Et on va s'intéresser à la région sud ce matin. Provence, Alpes, Côte d'Azur, ce sera l'une des plus scrutées régions visées par le Rassemblement National. Le RN peut-il l'emporter? Nous vous dévoilons un sondage ce matin. Europe 1, IFOP, son directeur adjoint Frédéric Dabi sera avec nous pour en tirer les enseignements tout à l'heure à 6h40. Et puis dans la partition... C'est David Bowie, le 14 avril 1983, qui sort l'album Let's Dance et devient une star internationale. Le récit d'Omblin Roche, dans la partition à 6h20. Laurent Cabrol, une belle journée à venir, mais une journée froide encore.
Oui, oui, le froid est toujours là, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai les dernières valeurs. Moins 4 à Charleville, comme à Épinal et Vichy, moins 3 à Saint-Etienne, moins 2 à Clermont-Ferrand et Nancy, moins 1 à Mulhouse. 0 à Caen, 1 à Besançon, 2 à Rennes, 3 à Bourges et Lyon, 4 à Marseille et Lille, 5 à Paris, 6 à Bordeaux, 7 à Toulouse et 10 à Nice. Donc effectivement, j'ai monté un petit peu les températures de Paris, mais il y en a beaucoup négatives. Heureusement, ça n'est pas trop, elles ne sont pas trop présentes dans les régions de viticoles, mais enfin, on souffre dans les vignes en ce moment, et là, ouais, actuellement, on doit être en train de réchauffer la parcelle. Les températures maximales, entre 11 et 17 degrés. Alors, je le disais, c'est une journée globalement ensoleillée, mais il y a beaucoup de nuances à installer sur cette carte. Je le ferai tout à l'heure, et le soleil sera le plus présent sur le littoral atlantique, le sud-ouest, le Massif central, le Berry, la région parisienne, la Normandie et la vallée de la Loire. Ailleurs, il va falloir passer par des moments nuageux et des moments peut-être pluvieux sous forme de giboulées. Voilà.
À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.